This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazz dans l'histoire, ou quand le jazz retrouve quelques repères. Une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier. Cette année-là, c'est 1950, une année riche en événements politiques ou musicaux. Nous sommes à 5 ans de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe se reconstruit avec l'aide des États-Unis et elle esquisse une première réunion avec le plan Robert Schuman pour une communauté européenne du charbon et de l'acier, la fameuse CECA, l'ancêtre de notre Union européenne d'aujourd'hui. Le partage du monde a eu lieu à Yalta entre monde occidental d'économie de marché et monde communiste. Les États-Unis, après la guerre du Pacifique et la chute du Japon, sont très présents dans le Pacifique. La fin de la guerre mondiale a créé une certaine confusion en Extrême-Orient, en Corée, en Indochine ou au Laos. Et la guerre se poursuit entre Est et Ouest à travers les clivages entre monde libre, entre guillemets, et monde communiste, avec notamment la montée en puissance de la Chine populaire de Mao Tse-tung. Nous verrons tout au long de cette année 1950 que l'état de guerre se poursuit au niveau des empires coloniaux dont les autochtones aspirent à l'indépendance. Yvan Cadeau, historien, auteur de La guerre de Corée 1950-1953 aux éditions Perrin.
Alors effectivement, les deux Corées, la Corée du Nord et la Corée du Sud, font régulièrement l'actualité. Et moi, il m'a paru intéressant de creuser un petit peu le sujet et de voir pourquoi, effectivement, ces deux Corées, maintenant depuis plusieurs décennies, étaient toujours officiellement en guerre l'une contre l'autre. Et effectivement, il y a très peu de choses dans l'historiographie française sur la guerre de Corée. Il y a plusieurs livres sur le bataillon français de l'ONU que la France a envoyé combattre en Corée entre 1950 et 1953. Mais sur la jeunesse du conflit et son déroulé, il y avait une absence. Et alors, au service historique de la défense, où je travaille, nous avons des archives à la fois de ce bataillon français, mais également des archives américaines ou britanniques, qui permettent d'avoir des sources primaires pour commencer la rédaction d'un ouvrage. Mais pour bien comprendre ce conflit coréen, il faut remonter à 1945, c'est la date à laquelle le pays est divisé en deux entités, l'une au nord, avec effectivement un fort soutien soviétique, et puis une seconde au sud, soutenue par les Américains. La période 1945-1950 est fondamentale pour comprendre la suite des événements, puisque c'est là que se cristallisent les oppositions entre le nord et le sud. Et l'historien américain Bruce Cummings a raison de le souligner. La guerre de Corée, c'est d'abord une guerre civile qui oppose les Coréens entre eux. Et entre 45 et 50, on peut déjà dénombrer plus de 100 000 morts entre les deux Corées. Donc la guerre, véritablement, on peut la faire remonter à ce moment-là. À partir de 1950, les Nord-Coréens envahissent la Corée du Sud. Mais là, encore, il faut souligner que si Kim Il-sung, le leader nord-coréen, prend l'initiative de cette guerre, le leader du Sud, Syngman Rhee, il faut bien savoir que s'il en a vu les moyens militaires, il aurait fait exactement la même chose. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les Américains se méfient de Syngman Rhee, leur poulain, et ne lui donnent pas les moyens militaires, de se défendre. Et c'est pour ça que, très rapidement, ça tourne à la catastrophe. Alors, cette guerre, schématiquement, on peut la diviser en deux phases. Une phase de guerre de mouvement, 1950-1951, avec l'introduction de nouveaux acteurs, la Chine communiste, l'Union soviétique, et puis ensuite une phase de stabilisation, 1951-53, qui voit la guerre s'enliser sur le terrain et on assiste finalement à des combats du type de la Première Guerre mondiale. Voilà. Alors, mal connu, ce conflit coréen il est quand même fondamental puisque c'est la première fois que l'ONU part en guerre, monte une coalition et que des nations vont combattre, 16 au total, sous son drapeau. Première fois aussi que, et seule fois de la guerre froide, où les Américains combattent directement leurs ennemis, la Chine communiste et l'Union soviétique. Et puis c'est également un laboratoire pour les militaires, puisque c'est là que les doctrines de la guerre froide vont être mises en place.
Après la lutte contre le nazisme, c'est un combat extérieur et intérieur contre le communisme qui s'ensuit. Aux États-Unis notamment, où la chasse aux sorcières va durer 4 ans sous l'impulsion du sénateur McCarthy. Côté jazz, on est en plein bebop depuis 1945, tant aux États-Unis qu'en Europe. Les grandes formations swing, pourtant, résistent encore. Jumping at the Woodside par le Count Basie Orchestra, un orchestre composé presque que de solistes. Je ne résiste pas au plaisir de vous les nommer. Thad Jones, Snooky Young, Wendell Cully et John Newman aux trompettes, Henry Cooker, Al Gray, Benny Powell au trombone, Marshall Royal, Frank Vess au saxo alto, Billy Mitchell, Frank Foster au saxophone ténor, Charlie Faulks au saxo baryton, Freddie Green à la guitare, Eddie Jones à la basse et Sonny Payne, musicien très important dans l'orchestre de Basie, à la batterie. Les deux solistes qu'on entendait, c'était Al Gray au trombone et Frank Foster au saxophone ténor. C'est enregistré le 20 février 1950 à New York. L'orchestre est en pleine forme. Alors, au cours de l'année, évidemment, Count Basie sera obligé de dissoudre l'orchestre pendant quelques temps. Il créera un octet. On aura l'occasion dans la semaine d'écouter cet octet, donc de 8 musiciens, mais qui sonne presque aussi bien que le grand orchestre. Alors, il est un autre musicien, chanteur, qui existe déjà beaucoup et qui est encore un chanteur de jazz. Il s'agit de Frank Sinatra.
When you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop your sighing, be happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing, that sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain, so stop your sighing. Be happy again, keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Cette semaine, nous avons choisi l'année 1963 et nous essaierons de retrouver les conditions de naissance d'une dizaine d'albums remarquable, édité cette année-là. Thank you. Vous aurez sans doute reconnu ce thème qui a été tant de fois interprété, Just a Gigolo, mais revisité, complètement presque distordu par Thelonious Monk. Monk qui, en 1963, commence à s'enfoncer dans une espèce de soliloque et il enregistre en studio pour la marque Columbia une série de solos de 1962 jusqu'en 1968. L'enregistrement que l'on vient d'entendre date de fin 62 et a donc été publié début 63, en janvier très exactement. Alors il faut resituer cette année 63. En Europe, on est en pleine décolonisation. Charles de Gaulle est président de la Ve République depuis 1959. La Deuxième Guerre mondiale a fragilisé tous les empires, qu'ils soient français, britanniques, belges, néerlandais, etc. L'idée d'émancipation des peuples se répand et c'est contraint et forcé que les États européens et quelques autres décolonisent peu à peu, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. L'Algérie est devenue indépendante en 1962, l'année qui précède, et le premier président de la République algérienne est élu, il s'agit de Ben Bella. Alors on peut établir un parallèle avec les États-Unis et notamment la lutte contre la ségrégation raciale en termes d'émancipation qui va s'amplifier au cours de cette année-là au point que les choses deviendront extrêmement dures et rigoureuses. Un musicien part en tournée en Europe et va réaliser une série d'enregistrements que tous les grands compositeurs du XXe siècle reconnaissent comme l'un d'entre eux et comme l'un des plus grands, Duke Ellington. Midnight Creature. C'est le troisième mouvement de cette symphonie, puisqu'il faut bien l'appeler comme ça, qu'a donc composé dès 1957, il a commencé Duke Ellington. C'était une tentative de sortir du carcan du thème et du morceau tel qu'il se jouait dans le jazz. Et donc Ellington est allé vers d'autres formes musicales, et notamment celle-ci. C'est un enregistrement qui s'est fait en Europe durant la tournée triomphale qu'il a fait avec son orchestre. Et le morceau, la partie que nous venons d'entendre, a été enregistrée avec l'Orchestre de Paris, qui est une formation qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui donc était un orchestre symphonique. Il a également enregistré les autres parties avec l'orchestre de Hambourg et celui de Stockholm. On pouvait entendre notamment dans cette... Là, c'est la phalange ellingtonienne par excellence qui joue, avec les musiciens les plus emblématiques. Et donc, on pouvait entendre notamment aux trompettes William Cat Anderson et Cootie Williams, et au saxophone baryton, que l'on entend assez longuement, Harry Carney, qui est un des musiciens historiques du groupe d'Ellington, et à la batterie, un musicien très, très méconnu, à mon sens, Sam Woodyard, qui est mort en France après avoir s'y être exilé, et il est mort quasiment dans la misère. Aux États-Unis, John Fitzgerald Kennedy est président depuis 3 ans. Il a succédé à Dwight Eisenhower, ancien général en chef des forces alliées pendant la guerre. C'est une grande mutation. Les gens qui ont fait la guerre cèdent la place à d'autres, à une jeune génération. Et les idéaux démocrates, Eisenhower était républicain, les idéaux démocrates semblent prendre une place plus importante dans la société américaine qui semble devenir plus ouverte et plus tolérante. 1963 en démontrera exactement le contraire. Et l'apparition de leaders noirs comme Malcolm X ou Martin Luther King montre que l'opposition entre communautés est encore trop vive, très vive. Pourtant, un style musical métissé, comme on le dit aujourd'hui, s'impose dès l'année précédente, et c'est la bossa nova.
Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver seu corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Thank you. quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade, meu amor?
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne sera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte J.W.R. en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.